l'actu des oubliés. Saison 5. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Ce mois-ci, nous retournons en Corée du Sud, où le peuple s'est soulevé au début du mois de décembre contre la loi martiale mise en place par le président Yoon Suk-yeol. Toujours avec Christophe Godin, maître de conférence à l'université de Séoul, nous questionnons les perspectives qui s'offrent au peuple coréen, et en particulier à cette génération de femmes vent debout contre une société profondément patriarcale. On en parlait le mois dernier, le président Yoon Suk-yeol déclarait le 3 décembre la loi martiale, manœuvre politique pour s'octroyer les pleins pouvoirs face à une opposition majoritaire au Parlement. La réaction immédiate et spontanée du peuple coréen le poussait à y renoncer moins de 12 heures plus tard. Immédiatement, on réclame sa démission. L'opposition parlementaire met en place une procédure de destitution. Or, celle-ci est rejetée une première fois le 7 décembre, car aucun député du parti au pouvoir ne participe au vote. La colère continue d'enfler, les syndicats appellent à cesser le travail. Le 9 décembre, c'est le corps médical qui se met en grève. Le 10, un nouveau rassemblement d'ampleur réunit les protestataires devant les camions qui diffusent de la K-pop.
Vous avez des organisations syndicales, des organisations paysannes, des organisations féministes, les universités aussi qui sont beaucoup mobilisées, mais qui sont à la remorque de la mobilisation populaire. Les organisations qui se joignent au mouvement n'en sont pas maîtres. À mon avis, les manifestants eux-mêmes sont surpris de l'ampleur que ce mouvement a pris. Séoul est inimaginablement grand, parce que vous avez déjà de très très grandes avenues. Et aussi, Séoul, comme Hong Kong, est parsemé de montagnes. Donc en fait, la ville est très, 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 très étendue. Et en plus, elle est coupée en deux par un fleuve qui est gigantesque. Donc, c'est très compliqué d'accéder au Parlement. Et quand vous y êtes, vous en partez plus, si vous voulez manifester. Pour en repartir, c'était infernal. Parce que vous imaginez bien, le président fait tout pour, en plus, tout simplement, la station de métro, évidemment, elle est fermée. Celles d'avant et celles d'après sont fermées. Et donc, si vous voulez y arriver, ça veut dire qu'il faut traverser le fleuve à pied. Puis il fait quand même moins 10, quoi. Et il y a de grandes avenues, c'est propice à d'énormes courants d'air. Et des courants d'air froids, mais il fait un froid. Il faut être un peu concret quand même, ça demande une organisation. Et quand on voit ces gens qui vont avec leurs enfants, par exemple, ou des gens âgés, mais ça demande une détermination folle. C'est pour ça aussi que vous voyez les gens qui offrent du café et du vin chaud, c'est parce qu'il fait froid. Non, mais c'est remarquable. Le courage dont font preuve les gens, et c'est aussi pour ça qu'ils dansent.
Dans les cortèges, les contestataires bénéficient d'une solidarité qui s'exprime par de nombreux dons alimentaires ou sous forme de thé chaud pour tenir le rythme. Depuis tout le pays, ou même depuis l'étranger, des donatrices financent l'approvisionnement en denrées au sein des manifs, à la manière de café suspendu mais en passant par le web. Le principe, des personnes prépaient un magasin pour qu'il approvisionne les personnes en lutte et partagent sur les réseaux le code qui permettra de s'alimenter. Certaines boutiques affichent elles-mêmes sur leurs vitrines des messages du genre « Ici sans café disponible, mot de passe, démocratie ». Une carte interactive a même été créée pour recenser tous les lieux qui proposent ce service, à Séoul mais aussi à Gwangju, Busan et sur l'île de Jeju, au sud du pays. Minso, interrogée par RFI, s'exclame.
Je suis très touchée et très reconnaissante. Des Sud-Coréens qui vivent à l'étranger ou qui ne peuvent pas venir nous offrent des boissons chaudes et de la nourriture. C'est leur manière de nous montrer leur soutien.
Vous avez des gens à Noël qui offrent du vin chaud. Vous avez des gens qui offrent du café. Vous avez des gens qui viennent avec l'équivalent coréen du sandwich, qui sont des rouleaux de riz qu'on roule dans de l'algue. C'est beaucoup à base de nourriture. Comme c'est des gens qui crevaient de faim il y a encore deux générations, la manière de montrer qu'on pense à vous, en général, c'est de vous donner à manger. Ou alors, par exemple, les médecins qui font des certificats médicaux à tour de bras pour les étudiants qui n'assistaient pas à leurs examens, par exemple.
Morirò uomo andiamo a colli polo. Ti voglio l'anima, nai sto ponte capolo. Mi secca ma mi pesa del tuo vite d'odo. Gigio park park. Ani da bacchi, da un codo tu palle. A lei dei pretty bici, vicino un guini. Ci sono il burini, bici, migi, pino, giacchi. Di comprendere, cianci, cacci, per heba, per patà. Pa pretore del soghi, non gara.
Le samedi suivant, le 14 décembre, une nouvelle tentative de destitution est soumise au Parlement. Les débats et surtout le vote sont retransmis en direct sur les écrans géants, comme le serait un match de football. 200 000 personnes sont cette fois présentes aux abords de l'Assemblée. Et la sentence tombe. Le président est destitué à 204 voix contre 85. La rue explose. On s'embrasse, on se pleure dans les bras, on hurle la victoire. Ce jour fera date, peut-être plus encore que le 3 décembre, lorsque la foule avait repoussé spontanément l'assaut des militaires. Consciente de leur force et de leur enthousiasme, les Coréennes sont au devant de la scène. Une étude estime ainsi que les femmes dans leur vingtaine constituent un cinquième de la totalité des protestataires anti-Yoon. L'espoir n'est pas seulement d'avoir évité la dictature, mais de pouvoir, ensemble, mettre à terre celui qui crachait depuis plusieurs années sur la perspective d'une liberté des femmes de disposer pleinement de leur existence. Ce jour-là, la chanson « Into the New World » du groupe Girls' Generation résonne partout. Sortie en 2007, devenue hymne des contestations successives en Corée mais aussi ailleurs comme à Hong Kong, la chanson notamment diffusée durant les marches féministes envahit la rue à nouveau. Plus qu'un chant de révolte, le tube du Girls Band célèbre le fait d'être puissante ensemble, quel que soit le degré d'adversité auquel on doit faire face. La symbolique est forte pour la jeunesse coréenne, plus encore pour les femmes et dans le milieu LGBTQI+. Le Seoul Queer Culture Festival en a ainsi fait durant un moment sa chanson phare. En 2024, le symbole est tel qu'un député de l'opposition verse quelques larmes en récitant les paroles durant une session parlementaire. Face à un avenir incertain et aux obstacles, je ne changerai pas, je n'abandonnerai pas. Nous y arriverons ensemble, peu importe le temps que cela prendra dans mon nouveau monde.
La présence de jeunes femmes qui prennent leur revanche sur ce président Yoon, elle est gigantesque. Il faut aussi savoir que la Corée a les yeux rivés sur ce qui se passe en Occident. Donc, MeToo avait eu une influence gigantesque, beaucoup plus forte que n'importe où dans la région. Tout d'un coup, Yoon est devenu une espèce de symbole négatif où il s'est mis à incarner le patriarcat. Donc, dans ces sociétés asiatiques, qui sont des sociétés beaucoup plus groupales qu'en Occident, des sociétés où le symbolique est beaucoup plus important que chez nous, la mayonnaise va prendre beaucoup plus facilement pour ou contre une personne que pour ou contre une idée. Et Yoon est devenu, en quelque sorte, le visage du patriarcat. Et c'est en ça, donc, que les jeunes femmes ont pu se mobiliser contre lui. La présence de jeunes femmes dans ces manifestations, elle est écrasante, elle est gigantesque. Et elle explique aussi la tonalité de ces manifestations. Il y a quand même quelque chose de très joueur. Et en disant ça, je veux rien enlever à leur dimension de courage physique. C'est plus le cas maintenant, mais le soir de l'état d'urgence, vous aviez quand même des hommes en armes qui ont pris d'assaut le Parlement. C'est très important d'ailleurs que la personne qui est devenue le fer de lance du mouvement, c'était une jeune femme. Pendant que vous aviez des assistants parlementaires qui bloquaient les accès pour ralentir l'armée, il y a une parlementaire de l'opposition où il y a un militaire qui la braque et elle a un moment de grâce comme ça où elle écarte l'arme et elle lui hurle dessus « Vous n'avez pas honte ». L'image a fait le tour des médias coréens. Donc dès le début, en plus, c'est aussi une figure féminine qui est devenue le symbole de ce mouvement. Et à la suite de ça, évidemment, ça a imprimé une certaine couleur au mouvement. C'est normal que les femmes contre lesquelles il a fait campagne soient en première ligne pour le faire tomber. En revanche, quand il sera tombé, par rapport à la situation des femmes en Corée du Sud, que faire ?
Le féminisme en Corée est la cible d'une contre-révolution réactionnaire plus violente encore que celle qui survient dans le monde occidental. Le quotidien Ankyore estime que les hommes coréens s'adaptent mal à cette société où les femmes sont de plus en plus instruites, où elles peuvent rivaliser avec eux dans le monde professionnel et où elles commencent à vouloir reprendre le contrôle de leur vie, de leur sexualité, de leur maternité. On entend des politiciens prétendre que la société coréenne est désormais dominée par les femmes et que cela conduit à une augmentation du nombre de suicides chez les hommes. alors que les oppressions sexistes à l'encontre des femmes sont encore très présentes. Pour un même poste, le salaire des femmes est en moyenne 31% plus faible que celui des hommes. Pour le Forum économique mondial, la Corée est carrément 94e sur 146 pays en matière d'égalité des genres. Et 2/3 des hommes coréens de moins de 30 ans se disent ouvertement antiféministes. Ainsi, des femmes sont agressées au motif qu'elles portent des cheveux courts, style perçu comme un marqueur féministe. Des femmes sont licenciées ou harcelées sur le net en raison de prises de position réelles ou fantasmées. Récemment, un geste résume cette paranoïa masculiniste, la pince de crabe. Il s'agit d'une insulte sous la forme d'un geste qui consiste à former un rond avec ses doigts et qui vise à se moquer de la taille du pénis des Coréens. Il y a quelque temps, des hommes croient déceler ce geste dans la vidéo promotionnelle d'un jeu vidéo. Aussitôt, l'entreprise est harcelée et une jeune femme travaillant à la conception des personnages est prise pour cible. Bien qu'innocente, puisque ce n'est pas elle qui a réalisé la vidéo, elle est victime d'un cyberharcèlement intense. La police refuse de prendre sa plainte en considérant qu'elle a mérité les insultes et les menaces de mort et de viol qu'elle reçoit. Et au contraire, une asso qui organise une marche pour la soutenir est condamnée. Depuis, des entreprises coréennes de jeux vidéo ont décidé de supprimer les doigts de leurs personnages et de se contenter de points pour éviter tout risque de scandale. Même le constructeur automobile Renault, dans une affaire similaire, a présenté ses excuses et suspendu une employée accusée d'avoir fait le geste de la pince de crabe dans une vidéo publicitaire. C'est d'ailleurs en Corée qu'est né le 4B, mouvement qui vise à se libérer des normes de genre et des attentes sociétales patriarcales. 4B pour 4 choses à ne pas faire. Ne pas sortir avec des hommes, ne pas se marier, pas avoir de relations sexuelles avec des hommes et ne pas avoir d'enfants. Un choix de vie pour refuser de s'imposer les rôles que la société prédestine aux femmes et se libérer des injonctions sociales. Le premier des 4B apparaît dès 2005 avec Uni Network, groupe d'activistes féministes qui se revendiquent comme célibataires, Bion en coréen. Avec l'objectif de mettre au centre du débat le modèle familial hétéronormatif basé sur le mariage. Quant à la maternité, il s'agit d'une véritable mode générationnelle en Corée. 65% des femmes, mais aussi 43% des hommes, déclarent ne pas vouloir d'enfants, selon une étude publiée dans l'article de Joan Kim, La guerre des sexes et la montée des sentiments anti-famille en Corée du Sud. Il s'agit également pour les féministes de rejeter la vision pro-nataliste de l'État, selon laquelle le corps des femmes est une ressource pour l'avenir de la nation. It's the bomb cut up, your head on my gisana. Beat a mong shut a nah, and my bandana. I'm the big chaos, the booty from the ghetto. Whoa, 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 the back, I need the coach. Cette tendance se ressent également à travers la lutte contre l'ouverture aux hommes de certaines universités. Il y a un siècle, alors que les universités coréennes étaient réservées aux hommes, certaines institutions ont été ouvertes pour permettre aux femmes d'accéder à l'éducation et de s'émanciper socialement. Or, les directions de 3 de ces universités ont décidé d'ouvrir l'inscription à des hommes, sans même s'aviser de consulter les étudiants. Les syndicats critiquent une décision qui va à l'encontre même de l'objectif de ces facs, qui est de donner plus de pouvoir aux femmes. So-yeon de l'université de Dongdok s'insurge sur RFI. C'est totalement antidémocratique. Nous n'avons pas été prévenus. L'université n'a pas communiqué sur ce changement, alors que c'est extrêmement important pour nous. Non seulement sur notre vie quotidienne, mais notre avenir aussi. Beaucoup d'étudiantes s'inscrivent ici, car justement, c'est une université pour femmes. Moi, je suis allée dans un lycée pour femmes, et je m'y suis sentie en sécurité. Je pouvais être moi-même, être féministe. Donc, cela m'a paru naturel de rejoindre une université pour femmes et d'être entourée de gens qui partagent mes idées. Le 11 novembre 2024, 5 universités sont donc barricadées par les étudiantes. À Dongdok, le bâtiment principal ainsi que de nombreuses salles de classe sont occupées, forçant l'université à basculer les cours en distanciel. Dans les slogans, la sécurité apparaît comme un enjeu majeur pour les étudiantes. Nayeon confie, toujours sur RFI.
Dans les établissements non mixtes, les hommes nous regardent, nous font des remarques. Il y a des agressions sexuelles, et si on ose se plaindre, on nous traite de féministes hystériques. Je préfère rester entre femmes.
Les allées sont peintes de graphes revendicatifs, tels que les délinquants sexuels dehors, les banderoles pendent aux fenêtres et le parvis d'un bâtiment est recouvert de vestes floquées au nom de l'université. Les femmes qui se mobilisent ont toutes et de manière systématique le visage caché par peur d'être reconnues, d'être ciblées par les groupes antiféministes qui dévoilent les infos personnelles des militantes, de subir des représailles en ligne, notamment à travers les deepfakes pornographiques qui sont une véritable épidémie en Corée. En lettres rouges, un slogan annonce « Plutôt mourir que d'ouvrir nos portes aux hommes ». Le 20 novembre, le conseil étudiant de Dongdok organise un vote pour ou contre la mixité. Sur 6500 étudiantes, 1973 prennent part au vote. 2 s'abstiennent. 1971 vote contre l'arrivée des hommes dans leur salle de classe. C'est donc dans ce contexte que survient la décision du président néo-fasciste et antiféministe de déclarer la loi martiale. Rien d'étonnant à ce que les avenues autour du Parlement se remplissent de jeunes femmes déterres à lutter pour l'établissement d'une nouvelle société, et qui ne lâchent rien, même une fois la destitution votée. Le président doit être arrêté et enfermé.
Donc la destitution a été votée, mais il faut donc l'accord de la Cour suprême, mais la Cour suprême n'a pas le nombre de juges nécessaires pour rendre sa décision. Pourquoi? Parce que les juges n'ont pas été remplacés, justement parce que Yoon a bloqué leur nomination. Donc la situation, pour le moment, elle est bloquée et on ne sait pas pour combien de temps.
Le 21 décembre, 300 000 personnes se réunissent dans le centre de Séoul pour réclamer l'arrestation de Yoon. Le même jour, la Ligue paysanne de Corée tente d'entrer dans la capitale avec 30 tracteurs et une cinquantaine de camions. Depuis le 16, des cortèges convergeaient depuis l'ensemble du pays. Ils se rassemblaient une première fois le 19 devant le bâtiment gouvernemental de la ville de Sejong avec des revendications propres au secteur agricole. La Ligue paysanne décida alors de rejoindre Séoul avec l'objectif d'assiéger la résidence personnelle du président jusqu'à son arrestation. Le face-à-face avec la police dure 24 heures durant lesquelles les paysans essaient de dégager le passage en poussant les cartes de la police avec leurs tracteurs. Le 22, la Ligue est rejointe par 2000 personnes venues des alentours. Kim Kae-young, paysan, explique.
Nous essayons de nous rendre à la résidence officielle du président, mais les policiers nous bloquent le passage. Yoon Suk-yeol doit être arrêté. C'est pour ça que les agriculteurs sont venus de tout le pays. Nous avons passé toute la nuit ici, et même à 2 ou 3 heures du matin, les gens venaient nous apporter de la nourriture et des boissons chaudes. Nous sommes vraiment surpris et reconnaissants.
Yoon étant suspendu, c'est à son premier ministre, qui fait office d'intérim, de nommer les juges de la Cour constitutionnelle. Or, il s'y refuse. C'est que si la Cour vote la destitution, une nouvelle élection présidentielle doit se tenir dans les 60 jours. Au vu des circonstances, son parti risque fort d'être battu. Croyant encore pouvoir sauver la face et demeurer président par intérim jusqu'à ce que les choses se tassent, il tente de gagner du temps avec des arguments fallacieux. L'opposition se lasse. Le 27 décembre, elle obtient par un nouveau vote sa destitution, à lui aussi. C'est alors au ministre des Finances de devenir président par intérim. Le lendemain, une nouvelle marche à Séoul réunit 500 000 personnes selon l'organisation. Se prolongeant tard dans la nuit, l'événement est encore une fois une grande fête populaire. L'avenue qui dessert le Parlement s'emplit de food trucks et de scènes géantes où se succèdent concerts de K-pop et prises de parole politiques. Le nouvel objet à la mode est une sorte de baguette magique lumineuse où il est écrit « dehors » en coréen et en anglais. Le Guardian explique que ces objets lumineux brandis par des milliers de personnes sont en fait héritiers de la tradition coréenne de venir protester avec des bougies, comme c'était encore le cas en 2017. Hwon Ji-so, 20 ans, explique.
Nous sommes en train de montrer que les manifs n'ont pas à être déprimantes. Ce pays est en plein chaos. Nous utilisons les baguettes colorées au concert, donc pourquoi pas ici? Je suis tout autant fan de K-pop que de démocratie.
En certains endroits, la rue se transforme en véritable scène de spectacle. Des centaines de chaises pliantes sont installées. Le public prend place pour entonner en chœur des chansons passées sur écran géant à la manière d'un karaoké à grande échelle, animé par des femmes déguisées en Mère Noël.
J'étais à une manifestation il y a quelques jours. Ils chantaient « On arrête le président » sur un air de K-pop. « On arrête le président, joyeux Noël. On arrête le président, joyeux Noël. » Moi, franchement, c'est des choses qui me remplissent de joie.
depuis la destitution du président, chaque nouvelle manifestation semble tout à la fois une manière de faire pression pour que la transition aille vite et une manière de célébrer ce que le peuple vit déjà comme une victoire. Sur le net et sur les réseaux, circulent comme des clips de K-pop qui célèbrent le mois écoulé. Les images mêlent la prise de parole du président annonçant la loi martiale, la résistance du 3 décembre, différentes manifestations où la jeunesse danse sur la pop coréenne, mais aussi des images d'archives datant de la dictature et de la démocratisation. On voit ainsi l'édification d'un parallèle entre les personnes qui se sont battues quelques décennies en arrière et le soulèvement actuel. L'un de ces clips se termine par le vote au Parlement pour la destitution du président, par les protestataires qui pleurent et se prennent dans les bras, puis par une image vue du ciel de Séoul illuminée par la foule.
Mais c'est gigantesque ce que les Coréens font. Et dans une région où ils n'ont aucun allié, hein. Ils sont bloqués entre la Chine, le Japon et la Russie, qui sont des régimes. Ils sont sans aide. La leçon, moi, que je retiendrai de la Corée du Sud, c'est qu'ils ont mis en place leur démocratie tout seuls. Les gens se sont battus depuis les années 60. Il y a eu des générations et des générations d'activistes qui ont fini en prison et qui, malgré tout, n'ont pas lâché l'affaire. Ça montre qu'il y a un courage populaire, il y a une aspiration au changement. De toute façon, ce mouvement-là, il aura quand même eu, en tout cas, le mérite d'écarter un danger fasciste. Si jamais il avait fait que ça, ça serait quand même quelque chose de gigantesque, déjà. Et Yoon, à mon avis, finira en prison comme tous les présidents de droite ont fini en prison en Corée. La démocratisation. En revanche, quand Yoon dégagera, et il dégagera, qu'est-ce qu'on fera ?
Dans un pays profondément marqué par les symboles, on peut également s'apercevoir de la fracture qui est à l'origine de la colère en invoquant la sphère culturelle. Le mouvement insurrectionnel qui pointe à la fin de l'année 2024 correspond étrangement avec la sortie de la suite de Squid Games, super production du cinéma coréen au succès mondial. Il n'est pas bien sûr ici question de penser que la série a une volonté révolutionnaire, mais de constater les allers-retours avec l'imaginaire de la société coréenne. Comme l'écrit Christophe Godin dans un article, Squid Games révèle d'une certaine manière les considérations contemporaines de la jeunesse coréenne sur le capitalisme mondialisé, qu'il est sans espoir pour le commun des mortels, que nous y consentons faute de mieux, et qu'il nous transforme en spectatrices, nous enferme dans ce rôle, et que parfois, nous parvenons même à jouir de ce spectacle. Voilà ce que propose par métaphore la première saison de la série sortie en 2021, sans appel particulier à la révolte puisque les personnages se contentent de subir, et au mieux, de survivre. En outre, le contexte global de la série ne semble pas mettre en scène une dictature mais une république libérale, puisque les personnes qui s'entretuent sont volontaires pour participer aux Squid Games. Un contexte qui s'apparente donc davantage au système politique coréen. Ce qui est intrinsèquement induit, c'est comment on met volontairement en place notre propre servitude, et comment il est ensuite très complexe de s'en extraire. Au cours des années qui suivent la saison 1, pourtant, les références à Squid Games sont récurrentes dans les protestations. On voit notamment la poupée géante de la série lors d'une manif pour la fermeture d'un abattoir accusé de maltraitance animale. Que la jeunesse coréenne ait elle-même influencé la série, c'est plus que probable, puisque la saison 2 a largement été réalisée en s'appuyant sur les commentaires et critiques de ses fans. Le réalisateur Hwang explique début janvier à l'agence Yonhap « Je pense qu'il y a une crise de la démocratie représentative. Je voulais vraiment questionner ce système où tout est décidé par un vote à la majorité dans une salle, que l'on se demande s'il est vraiment correct et s'il n'y a pas d'autre solution. » Dans la saison 2, quand le système se révèle tel qu'il est, les individus cessent d'être une pluralité de solitude, c'est-à-dire mis les uns à côté des autres sans pouvoir faire collectif. Face à l'impuissance du processus démocratique, ils deviennent un groupe en fusion, c'est l'insurrection. Début décembre, trois semaines avant la sortie de cette saison 2 et quelques jours après que le président Yoon ait déclaré la loi martiale, le réalisateur Hwang lâchait en conférence de presse « Il est de notre devoir de descendre dans la rue ». C'est le même phénomène qui semble alors prendre racine dans la société coréenne, las de ce système qui ne lui laisse ni le temps ni la capacité financière de vivre sa propre vie, y compris relationnelle et sexuelle. La jeunesse coréenne envahit l'espace public au prétexte de cette tentative de coup d'État, mais elle descend dans la rue avec un arrière-plan politique bien plus vaste et prend conscience d'elle-même, de sa propre puissance, dans la vraie vie comme dans son imaginaire culturel. La question qui se pose aujourd'hui en Corée est finalement, comment et quand la jeunesse trouvera-t-elle des outils démocratiques novateurs qui lui permettront de dépasser cette pseudo-démocratie libérale qui la condamne perpétuellement à un show dont elle est à la fois victime et spectatrice?
Ça va être long. Spontanément, je pense qu'on verra le bout du tunnel, parce que c'est pas possible que vous ayez une société où les gens se politisent, commencent à réfléchir, et que tôt ou tard, il n'en sort pas quelque chose. Ce que je vois, moi, en Corée, j'y suis depuis 17 ans, et les gens sont plus ouverts d'esprit qu'il y a 17 ans. Ça, c'est une certitude. C'est remarquable venant d'une société qui était l'une des plus fermées du monde, une société qu'on appelait le royaume ermite à la fin du 19e siècle. Donc, il faut leur faire crédit du chemin parcouru. Il y a la même chose avec les printemps arabes. Est-ce que le destin de ces printemps arabes, est-ce que le fait que vous ayez des régimes autoritaires en Tunisie et en Égypte, mettons, suffit à invalider ces printemps arabes? Bien sûr que non. Il faut se placer sur le temps long. Il y a une historienne que j'aime bien, Annie Lacroiry, qui disait que la crise du féodalisme avait duré 3 siècles avant l'émergence du capitalisme. Ben, il faut espérer que ça ne prendra pas 3 siècles.
Yeah, I'm a white slut, riding song. Not meaning no look at type of die or not. It's T1 connections, we doing for what? GNT Agana, my bitches end up.
Le 31 décembre, le tribunal de Séoul émet finalement un mandat d'arrêt contre le président suspendu. Le lendemain, de petits rassemblements spontanés fleurissent un peu partout sous la neige qui tombe continuellement. Les banderoles colorées clament « Arrêtez Yoon maintenant ». Or cela n'est pas chose aisée. Depuis un moment, celui-ci est cloîtré dans sa résidence, protégé par son service de sécurité et par des dizaines de ses soutiens qui campent autour de sa maison. Via des vidéos YouTube relayées par des influenceurs d'extrême droite, il exacerbe ses partisans de son discours complotiste et assure qu'il se battra jusqu'au bout. C'est ainsi que 3 tentatives de perquisition ont été empêchées. Le 3 janvier, une centaine de policiers parvient à s'introduire dans la résidence du président suspendu en contournant les barrages mis en place par ses partisans. Une fois sur place, ils font cependant face à plus de 200 gardes du corps, parfois des soldats. Le face-à-face dure 6 heures, mais la police doit finalement rebrousser chemin. Bredouille. Alors la jeunesse coréenne déferle encore une fois dans les rues pour exiger l'arrestation. Elle prend le chemin de la résidence de Yoon Suk-yeol, mais est cernée par les forces de police. Finalement, un cortège parvient à se rendre sur place et des affrontements éclatent avec les pro-Yoon qui sont désormais plusieurs centaines. Ces derniers reprennent le slogan « Stop the Steal », « Halte au vol », slogan phare de Donald Trump après sa défaite à l'élection présidentielle états-unienne de 2020. La résidence de Yoon Suk-yeol devient une véritable forteresse. Des bus sont mis en travers de l'entrée, des barbelés sont installés pour ralentir un éventuel second assaut. Finalement, la police est envoyée plus nombreuse encore le 15 janvier, sans armes pour éviter toute effusion de sang. Elle écarte les partisans du président néo-fasciste, escalade le mur d'enceinte avec des échelles, affronte à coups de poing le service de sécurité présidentielle. Yoon est finalement forcé de se rendre. Inculpé, il restera en prison jusqu'à son procès qui se tiendra dans 6 mois. C'était le 8e épisode de l'Actu des Oubliés. Un grand merci à Christophe Godin qui a été avec nous pendant ces 2 épisodes. Au doublage, Marie-Lou et Théo. Et en termes de musique, vous avez écouté Ravi et Chilinomi. Et en ce moment, Cyberrui avec Ketchup. Beau mois de février à toutes et tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Make it wet, but papa, let's rock. You know my bitch is hot. Booty boot, my tie. Yellow, let's go. Dog, she get money. And I want dollar. Mug, so yellow. I'm a white slut, riding song. Not meaning no look, a type of a die or not. T1 connections, we doing for what? GNT Agana, my bitches end up. All of my bitches, catch up. All of my bitches, catch up. All of my bitches, catch up. We ain't playing by my dad, I just wanna vibe. 이때 꼴레나야 쯔 이때 쇼가 나